émission 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à Pierre Albaladejo et ses liens avec Roger Coudert. Sans les autres, on n'est rien. De son vivant, avec le All Black Colin Meads et le Gallois Gareth Edwards, Pierre Albaladejo, dit Monsieur Drop, 30 sélections avec 104 points en équipe de France, est le seul rugbyman à avoir été statufié de son vivant. L'œuvre de Christian Maas a été érigée dans sa chère ville de Dax, le 8 septembre 2017. Pour cette fête hors du commun, Bala avait voulu à ses côtés les 38 internationaux qui, comme lui, ont porté le maillot de l'US Dakoise. C'est sûr, il ne manquait que Roger Coudert, parti à l'âge de 65 ans, le 25 février 1985. Le rugby, la grande affaire de sa vie. Pierre Albaladejo est né à Dax en 1933. Il a connu l'occupant allemand, les années d'apprentissage de typographe. En 1954, il est international à 20 ans, victorieux de 4 tournois des 5 nations, 4 fois finaliste du championnat de France de rugby. En 1968, premier consultant sportif. Une voix aux côtés de Roger Coudert, puis de Pierre Salviac. Une voix, mais aussi une plume, dont les clameurs du rugby en 1971. Les mouches ont changé d'âne en 2000 et ce jeu qui interdit le jeu en 2008. En début d'année 2023, Philippe Darmuset a écrit un livre hommage à Pierre Albaladejo. Dans la peau d'Albaladejo, rugby, Feria, Bala, aux éditions Sud-Ouest. Dans l'épilogue, morceau choisi, sélection d'articles, nous relatons, pages 146 à 153, la préface de Pierre Albaladejo au livre de Roger Coudert, Adieu les petits, édition Solar en 1983, ainsi qu'un hommage de Pierre Albaladejo à Roger Coudert, 30 ans après sa mort.
De Bala, Roger Coudert. Les adieux d'Albaladejo à Roger Coudert. Préface à Adieu les petits. Note. Préface de Pierre Albaladejo au livre de Roger Coudert, Adieu les petits, édition Solar, 1983, tapuscrit des archives de Pierre Albaladejo. Fin de note. Je cite. Cher monsieur, lorsque vous avez réussi ce drop phénoménal contre les Irlandais, mon mari s'est effondré mort dans son fauteuil. Je vous remercie d'avoir offert à mon mari la plus belle mort qui soit, tellement le rugby lui tenait à cœur. Fin de citation. Il y a longtemps, mon cher Roger, que je voulais t'écrire pour mettre les choses au point, au sujet de cette lettre reçue il y a une vingtaine d'années. Il y a prescription, et j'ose espérer que cette brave dame, s'il plaît à Dieu qu'elle vive encore, ne t'en voudra pas d'apprendre la vérité sur la mort de son mari, dont je t'accuse. J'ai souvent revécu cette phase de jeu qui n'avait pas de quoi précipiter le prépas. Mais voilà. Ce modeste drop tapé de 25 mètres, légèrement de biais, et tiré sur une passe ultra rapide de Pierrot Lacroix, était passé par ton micro. Ce fut fatal pour cet humble monsieur. Je ne t'en veux pas d'avoir grossi ce fait, bien au contraire, même si au cours de ce même match, tu avais décrété qu'après ce que tu venais de voir, tu pouvais mourir. Diable de Roger, plus de 20 ans passés et tu es toujours là, et moi aussi. À croire que nous étions faits pour être complices et vivre ensemble les moments les plus exaltants et fous de notre vie. Celle que je n'échangerai contre aucune autre. Et cela, Roger, je te le dois, comme une multitude d'anciens joueurs te doivent d'être ce qu'ils sont. Ils ne sont pas ingrats, ils le savent, et lorsque l'occasion se présente, ils n'oublient pas de m'en parler, comme pour te dire merci. Je ne te fais pas toujours ces commissions parce que tu pourrais te prendre pour le bon Dieu et cela me gênerait, d'autant que le bon Dieu, me disait ma grand-mère, ne ment jamais, il se trompe, comme toi Roger, comme toi. À ceux qui pensent que tu exagérais les faits, je répondrai pour toi qu'après tout les mathématiques n'ont jamais été ton fort. Il est vrai que d'un décimètre à un décamètre, il y a orthographiquement que peu de différence. Remarque, tu n'as jamais été très doué non plus pour lire les degrés centigrades. Je me souviens de ton début de reportage à Constanța. Note, ville de Roumanie, sur la mer Noire, où se joua le match de rugby Roumanie-France, 16-15, le 27 novembre 1972. Fin de note. Où tu avais annoncé qu'il faisait moins 40 degrés. Tu sais, la veille, où tu avais glissé sur le quai de la gare et que les roues du train t'avaient enlevé la casquette. Le geste prompt de Boffelli, note, Victor Boffelli, international de rugby français, 3e ligne L, 18 sélections de 1971 à 1975. Fin de note. Tirant le signal d'alarme, te sauva la vie. Depuis ce jour, Boff devint pour toi le plus grand 3e ligne de ce siècle. Nous pouvons lui et moi t'avouer aujourd'hui que le train n'avait jamais démarré. Et la chaleur du désert du Karoo en Afrique du Sud, t'en souviens-tu? C'était ta deuxième traversée après celle de 1968. Nous avions fait l'aller dans une voiture conduite par un condamné à mort par contumace et le retour par avion. Là, je suis d'accord, tu avais moins risqué à l'aller qu'au retour, car depuis, l'otite de l'aviateur ne te quitte plus. Et Auckland, pour le triomphe français du 14 juillet contre les Néo-Zélandais, lorsque tu devins le premier commentateur au monde à décrire une phase de jeu en chantant. Il fallait le faire. Et Chicago, et Sydney, et Johannesburg, et Twickenham, et Alouette. Et ça suffit pour aujourd'hui. J'eusse préféré que ton livre s'appelât « Au revoir les petits ». Mais l'adieu que tu leur dédies est le signe volontaire de ton caractère et aussi le côté réfléchi d'une grande sortie. Comme Antonio Bienvenida, un soir d'apothéose à la Monumentale de Madrid, tu quittes le cirque par la grande porte, celle que l'on ouvre qu'exceptionnellement et que l'on referme sur les exploits de légende. Je souhaite que cette sortie reste un exemple de la relativité et de la précarité des choses. Le rugby a été beaucoup pour toi. Tu lui as donné un ton et une couleur particulière qui nous faisait bien digérer quelques sombres après-midi. Ta passion a été une merveilleuse aubaine pour ce jeu. Derrière celle-ci se cachait l'homme, celui dont la sensibilité et la générosité exemplaire ne peuvent laisser indifférent. Voilà que je m'écarte et que j'empiète sur ton autre vie, celle qui t'est personnelle. Tu veux la garder secrète et tu as raison. Pourtant, permets-moi de décerner à Noun, ta charmante épouse, les palmes du dévouement et de la patience. Le rugby t'a si souvent écarté d'elle qu'elle mérite bien cette pensée. Au fait, elle aura à te supporter à l'heure des prochains tournois. La fête continue, le rugby aussi, et tu me manques déjà, ton ami. Je cite. Pendant que j'assurais le commentaire, il chantait la Marseillaise. Fin de citation. Hommage de Pierre Albaladejo à Roger Coudert, 30 ans après sa mort. Note, propos recueillis par Pierre Tanger, Minute, 5 mars 2014. Fin de note. Le 25 février 1985, à l'âge de 65 ans, le journaliste sportif Roger Coudert nous plaquait, terrassé par une attaque cérébrale. Depuis la fin des années 1950, il était la voix du rugby français à la télévision. Son célèbre « Allez les petits » a encouragé les joueurs du 15 de France sur les stades du monde entier. Extrait de l'entretien. Minute. Entre vous et Roger, c'était une vieille histoire d'amitié. Mais comment a-t-elle débuté? Pierre Albaladejo. Je l'ai connu quand j'étais encore joueur. Roger a commenté toute ma carrière. Depuis la fin des années 1950, il était à la télévision. Il avait commencé par commenter les combats de catch, où ses répliques faisaient rire toute la France. Puis il est arrivé dans le rugby, avec tout son répertoire, sa passion, sa faconde, ses exagérations. C'était une époque rêvée. Avec les joueurs, la communion a été immédiate. Tout de suite, il nous a donné des surnoms. Michel Crost, qui avait de grandes moustaches, c'était le Mongol. Il y avait Michel Vanier, naturellement surnommé Brin d'Osier. Alfred Rogge, le talonneur qui était chauve. Note, ici la transcription de l'entretien est infidèle. Alfred Rogge était pilier. non à l'honneur. Balin ne peut pas s'être trompé. Fin de note. C'était le pépé du Quercy. Moi, j'étais Balin, l'homme pied d'or. On était vraiment ses petits. Il est aussi devenu le 16e homme du 15 de France. Un 16e homme qui vous accompagnait dans vos équipées nocturnes. Le soir des matchs, quand on faisait la troisième mi-temps dans les bars de Saint-Germain-des-Prés, bien sûr qu'il était de la partie. Et c'était lui le plus populaire. Les gens lui tombaient dessus pour le féliciter. Je cite. « Monsieur Coudert, vous avez été formidable cet après-midi. » Fin de citation. Il y en a d'autres qui lui demandaient pourquoi il avait fait jouer tel joueur. Dans l'esprit du public, c'était lui le patron du 15 de France, c'était lui le vrai sélectionneur. Nous, joueurs, on rigolait. C'est nous qui, sur le terrain, prenions les beignes, mais c'est Roger que les gens aimaient et admiraient. Et il le méritait. Il a été un grand promoteur et aboyeur du rugby français. Il ne commentait pas les matchs, il les vivait. Avec son célèbre « Allez les petits », il a fait pour le 15 de France plus que n'importe qui. Et puis, en tant que consultant, vous êtes devenu son complice. Quand, en 1968, j'ai arrêté ma carrière de joueur, Maurice Siegel, qui était le patron d'Europe, m'a dit, je cite, « Vous avez l'accent du Sud-Ouest, mais je comprends tout ce que vous dites. Alors, je vous propose de commenter les matchs de rugby en tandem avec un journaliste. » Fin de citation. Je suis ainsi devenu le premier consultant de l'histoire de l'audiovisuel. Au départ, c'était avec Émile Toulouse. Quant à Roger, il travaillait sur une autre station, RTL. Suite aux événements de mai 68, il avait été viré de la télé par De Gaulle, qui avait foutu dehors toute une flopée de journalistes, dont les regrettés Thierry Roland et Robert Chapatte. Et Chapatte, venu exercer son boulot à Europe 1, me lance un jour. Je cite. « Tu ne penses pas que ce serait chouette de commenter avec ton pote Coudert ?» Fin de citation. Bien sûr que si. En fin 1971, Roger a franchi le Rubicon et m'a rejoint sur Europe 1 pour former notre duo. Et vous y faites une invention. On est à la radio. On fait de la radio, mais avec Roger, ça prend une autre dimension. On invente le transistor à image, c'est-à-dire que les gars coupaient le son des matchs retransmis à la télé pour écouter nos commentaires à la radio. C'était cocasse et Roger Coudert en jouait. Il attaquait toujours ses reportages en disant, je cite, « Chers téléspectateurs, non, pardon, chers auditeurs, les Anglais de blanc vêtu sont à droite et les Français en bleu sont à gauche de votre transistor. » Fin de citation. Mais bientôt, vu votre succès sur les ondes, la télé vous fait les yeux doux. En 1974-1975, arrive la réforme de l'ORTF. D'une chaîne unique, on passe à trois chaînes publiques. Président de la 2, Marcel Julien recrute Chapatte au sport. Et Chapatte lui dit, je cite, « Pour le rugby, faut prendre Bala et Coudert. » Fin de citation. Voilà comment notre duo est arrivé à la télé. Pour un bail qui s'est achevé en 1983, on s'est beaucoup marré. Parce que Roger était unique pour faire le spectacle. Il était toujours dans la démesure. J'étais là pour rectifier le tir. Quand il annonçait qu'un joueur avait tapé un coup de pied de mammouth de 60 mètres, je le taquinais sur son sens de l'exagération. Alors il faisait une petite concession. Je cite. « Bon, j'enlève 20 mètres, un coup de pied de 40 mètres. Ça vous va ?» Fin de citation. Son enthousiasme, sa passion, ses excès, c'était un plus pour les spectateurs et les joueurs. Les joueurs, c'était les petits, il les protégeait, jamais il n'a bousillé personne. En revanche, il était souvent moins gentil avec les arbitres. À chaque fois qu'un arbitre sifflait contre le 15 de France, Roger remettait en doute sa décision. Le nombre d'arbitres à qui il a conseillé d'aller acheter des lunettes, les téléspectateurs rigolaient, prenaient du plaisir. On ne pourrait plus le faire aujourd'hui. Les commentaires enflammés et l'esprit cocardier de Roger ne seraient plus tolérés. S'il fallait n'en retenir qu'un, quel serait le meilleur souvenir avec Roger? C'était le 14 juillet 1979, le jour où la France a pour la première fois battu les All Blacks en Nouvelle-Zélande. Ce match arrivait en fin de tournée. Nos joueurs étaient fatigués et blessés. Personne n'y croyait. La semaine avant la rencontre, il n'y avait que Roger pour annoncer. Je cite, « Vous allez voir, on va leur foutre une volée aux Blacks. » Fin de citation. Et ce qui ne devait pas arriver, arriva. Le coup d'envoi est donné et le match devient formidable. La France bat les All Blacks, un 14 juillet. Pour Roger, cocardier comme il était, ça ne pouvait pas mieux tomber. Il a disjoncté. Il était fou de bonheur. Il fallait le voir et l'entendre. Pendant que j'assurais le commentaire, il chantait la Marseillaise. Ce qui est aussi admirable, c'est le respect que tous les joueurs lui vouaient, comme ils l'ont démontré lors de son départ à la retraite. Nous avons commenté notre dernier match le 19 mars 1983. Un France-Galles au Parc, à Paris. Roger prenait sa retraite. Lors du dîner d'après-match, Jean-Pierre Rive, le capitaine du 15 de France, que Roger avait surnommé « Casque d'or », lui a fait cadeau de son maillot sur lequel, durant la partie, avait giclé, suite à une blessure au nez, le sang de notre joueur mythique, Serge Blanco. Puis, en mai suivant, pour remercier l'homme exceptionnel qu'il était, les anciens internationaux ont rechaussé les crampons pour un match de gala afin de fêter son jubilé. À cette occasion, un maillot de l'équipe de France a été spécialement édité, avec sur le cœur le nom de Roger Couder. Malheureusement, moins d'un an après, Roger partait et laissait les petits du 15 de France orphelins. Pour lui rendre hommage, France 2 diffuse ce samedi, 8 mars 2014, un reportage qui lui est consacré. Ça doit vous faire chaud au cœur. Mardi, je suis arrivé à Marcoussis, où est organisée une projection en avant-première. Tout le rugby français sera présent. Les joueurs du 15 de France, les espoirs, les féminines. C'est mérité pour Roger, il a tant donné pour le rugby. Il y aura beaucoup de nostalgie. On va revoir ce qu'était le rugby il y a 30 ans, en songeant à ce qu'il est devenu. Justement, de voir ces images d'un rugby de fête va peut-être redonner aux actuels joueurs du 15 de France le goût d'un panache qu'ils semblent avoir perdu. La plupart des joueurs n'étaient pas nés quand Roger est mort. Et ça m'étonnerait que cela leur donne des idées. Le rugby a tellement évolué. Maintenant, les joueurs sont professionnels. Pour eux, le rugby est un labeur. Pour nous, c'était un jeu. Mais les choses sont ce qu'elles sont. Il suffit de se demander ce que la société est aujourd'hui devenue pour comprendre l'évolution des mentalités. Car le rugby est à l'image de la société. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et on peut le regretter.
Pour finir, le journaliste-écrivain Guy Lagorce revient sur le rôle du buteur au rugby à travers l'histoire de Pierre Albaladejo. Guy Lagorce, né en 1937 à la Bachellerie en Dordogne, est un ancien international qui a participé aux Jeux Olympiques de Rome 1960. Il devient ensuite journaliste et rédacteur en chef à l'Équipe, François, TF1, Le Figaro, Paris Match et L'Express. Il a publié plusieurs ouvrages, dont la fabuleuse histoire des Jeux Olympiques chez Minerva en 2004, avec Robert Pariente. En 1983, avec Le Train du Soir, il revient sur la tragédie de la Bachellerie qu'il vécut enfant. Le 30 mars 1944, à l'aube, les nazis occupent la totalité du bourg de la Bachellerie. Ils procèdent à des arrestations. Le château de Rastignac et 5 maisons sont incendiées. 15 habitants, dont 2 adolescents, sont fusillés à la Genèbre. 50 personnes sont déportées. 4 jeunes filles seulement reviendront des camps de la mort. Guy Lagorce vit aujourd'hui à Dax. Nous relatons son article du 19 octobre 1999 dans le journal Le Monde.
Le but, l'action d'un seul. Par Guy Lagorce, Le Monde, du 19 octobre 1999. Dès la formation de la mêlée ouverte, il a vu le troisième ligne aile d'en face se mettre à la faute. Un hors-jeu criard. Il entend aussitôt le coup de sifflet de l'arbitre. Il cherche des yeux le capitaine, qui, sans hésiter, désigne les poteaux adverses. D'un seul coup, tout change. La solitude lui tombe sur les épaules. Jusqu'alors, au plus chaud du combat, les nerfs à fleur de peau, hargne dehors, il vivait malgré tout dans une sorte de cocon. Il n'avait pas accompli un seul geste réellement personnel, pas une seule action qui ne soit destinée à améliorer le rendement de l'équipe tout entière. Il n'existait qu'en fonction des uns ou des autres, de leur position en attaque ou en défense sur l'échiquier du terrain, qu'ils balayaient sans cesse du regard. Il n'était rien d'autre qu'une petite part d'un grand corps en pleine action, et le voici soudain devenu un acteur seul en scène, ou dans la peau d'un athlète de sport individuel, lui qui a choisi le jeu le plus collectif qui soit. main sur les hanches, les 14 autres regagnent leur camp en soufflant. Pour eux, c'est tout bénéfice. Un moment de repos toujours bon à prendre et l'espoir d'engranger 3 points. À 45 mètres dans la diagonale des perches, le buteur accomplit son rituel. Pose du tee ou confection du tas de sable, essuyage du ballon et mise en place de celui-ci dans le bon axe, 4 pas de recul, 2 sur le côté, inspiration, expiration, l'œil passe des poteaux au ballon, inspiration. C'est parti. 1, 2, 3, 4, la jambe d'appui légèrement fléchie et le pied placé au demi-centimètre près. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la position du pied d'appui est plus importante encore que celle du pied qui frappe. Et, venant de loin, le coup de fouet de la jambe libre en balancier. Être le buteur désigné d'une équipe est une lourde charge. En plus de l'enchaînement classique en compagnie des autres joueurs, il faut rester seul sur le terrain et botter, 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 encore jusqu'à l'écœurement, chaque jour, sous tous les angles. On s'y fait, dit Pierre Albaladejo. Le jour où l'on accepte de devenir buteur, on sait qu'on va porter toute sa carrière durant la victoire ou la défaite de son équipe. C'est comme ça, il faut savoir faire le vide. Les sifflets, les huées, on vit avec. J'en avais même tellement l'habitude en championnat, ça faisait tellement partie de l'environnement que lorsque je me suis retrouvé en Nouvelle-Zélande, avec une pénalité à tirer dans le silence le plus respectueux, un silence de cathédrale, ça m'a complètement paniqué. L'intelligence des courants d'air. Alors comment et surtout pourquoi devient-on buteur? Par pur masochisme? Peut-être un peu, mais pas seulement, dit Pierre Albaladejo. Car de la même manière que l'on est rapide et que l'on devient un sprinteur grâce à l'entraînement, on est botteur et on devient buteur. Au départ, on a le don. On frappe plus vite et plus loin que tout le monde. Ce n'est pas une question de gabarit, mais de coordination naturelle et de vitesse, un peu comme on a le punch en boxe. Ensuite, c'est une affaire, une longue patience. Mais on ne deviendra jamais un vrai buteur. Et si l'on ne possède pas un fort équilibre psychologique, et en outre, ce que j'appellerais l'intelligence des courants d'air et des vents. Bala, qui possédait cet instinct, l'a affiné alors qu'il n'avait que 19 ans, grâce à un joueur mythique, Max Roussier, qui l'amena seul sur le stade de Saint-Paul-et-Dax et le fit buter sous tous les angles par un jour de grand vent. Il se plaçait sur la ligne d'essai, parfois sous les poteaux, parfois près d'eux, parfois plus loin, à 7-8 mètres, et il me disait de ne jamais regarder les perches, mais de le viser lui. Et à chaque fois, je réussissais mon coup de pied. Ce jour-là, j'ai compris ce que jusqu'alors je pressentais. À l'époque, le jeu était différent, et les tentatives de pénalité moins nombreuses. Aujourd'hui, le buteur est devenu l'élément clé des équipes. Un joueur comme le gallois Neil Jenkins s'entraîne seul chaque jour, mais aussi tous les matins précédant les matchs. C'est un surdoué devenu une mécanique de précision, dit Pierre Albaladejo, comme l'était le néo-zélandais Dan Clark dans le temps. À l'époque, le buteur portait des chaussures spéciales, plus lourdes et souvent à bout carré. On frappait de pointe. Depuis 1966, avec l'accélération du jeu, plus question de traîner de lourdes chaussures. Les buteurs, sans exception, frappent de travers. Le point d'impact sur le ballon se situe au-dessus de l'intérieur du pied. On gagne ainsi beaucoup en puissance. La position du ballon, verticale ou pointée vers les poteaux, position dite torpedo et fonction du vent. Vent de face, torpedo, plat, pour filer bas. Vent favorable, ballon droit, pour profiter de la portance. Vent nul ou faible, demi-torpedo, c'est-à-dire dirigé vers le but, pointe vers le haut. Mais le buteur, c'est aussi celui qui réussit des drops. Et le drop, c'est une autre histoire. Pour le premier test en Nouvelle-Zélande, en 1961, raconte Bala, j'arrive avec une réputation terrible. On m'appelait Monsieur Drop. Un journal avait même publié la photo de mes pieds nus. C'est dire, et comme ils sont plats, ce n'était pas très décoratif. Bon, arrive le match. Et l'histoire de ne pas décevoir le rédacteur en chef, je leur passe 2 drops. Un du gauche, un du droit. En fait, passer des drops n'est pas une affaire de buteur. C'est une question d'instinct. J'irai même plus loin. L'instinct du drop est celui d'un gibier traqué qui se défend. Et rien d'autre. Et ça, désolé, ça ne s'apprend pas. On l'a dans le sang. L'histoire du rugby est riche de buteurs légendaires. qui terrorisaient leurs adversaires, les paralysant dans leur jeu, noués par la peur de commettre la faute qui ouvrirait les buts à l'assassin. Bala les cite en rafale, Don Clark et Graham Fox de Nouvelle-Zélande, Michel Leinen d'Australie, Ned Jenkins de Galles, Diego Dominguez d'Argentine, et pour la France, Guy Cambera-Béro, Pierre Villepreux, Thierry Lacroix, Paul Dedieu. Mais au-dessus de tous, le roi des rois, le surdoué des surdoués, ne s'entraînant pas, fumant, buvant, mais insurpassable. Puis Aubert, un petit bonhomme rondouillard aux jambes arquées, et qui, du point de corner, vous expédiait 3 ballons sur 5 entre les perches. Il est passé du rugby à 15 au jeu à 13. Nous, les autres buteurs, conclut Pierre Abaladejo, on en réussissait 1 sur 6 ou 7. Puis Aubert, Pipette, je crois que le buteur du siècle, c'est lui.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.